Et bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. C'est Sporama, comme tous les lundis soirs, magazine de sport pour parler de l'actualité sportive sur le continent et dans le monde. Je rappelle que vous pouvez nous appeler, le numéro de téléphone toujours le même, en direct 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40, Michel Joseph et Fredner Kayemit qui sont derrière la vitre pour prendre vos appels. Vous avez également été nombreux à réagir sur Facebook, déjà plus de 3 millions de fans sur la page Facebook VOA Afrique. Merci de votre fidélité. On va saluer nos intervenants habituels. On va saluer à Libreville, Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également en France, Amdine Sy, bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pinot et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et on va saluer à Boïcon Bénin, celui que vous écoutez tous les lundis matins sur VOA Afrique, Élisée Oumpatine, bonsoir.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Africa.
Allez, avant de revenir sur les résultats de la Ligue des Champions d'Afrique, on va parler de cette information qui est tombée aujourd'hui. L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, déjà sanctionné par la Confédération africaine de football, eh bien, il a été suspendu à vie par la FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud Sénégal de Buzyn. C'était le 12 novembre dernier, en marge des qualifications pour le Mondial 2018. Alors, Amdine Sy, il avait fait mal au Lion de la Teranga. Hein. Évidemment, la FIFA, l'instance suprême du football, le reconnaît coupable de manipulation du match pour avoir influencé illégalement le résultat.
Tout à fait, Nicolas Pinot. On se rappelle quand même de ce match joué le 12 novembre dernier. L'arbitre de cette rencontre a été comme le héros malheureux de ce duel entre Lyon du Sénégal et Bafana Bafana d'Afrique du Sud. En effet, son arbitrage a été contesté par les Sénégalais. Il avait offert quand même un pénalty à l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Je pense que cette sanction vient à son heure car l'arbitre quand même s'était très très mal comporté. Le Sénégal qui était leader après la première journée s'est retrouvé à la dernière place hein, parce que tout simplement ils avaient perdu ce match. Maintenant, je pense que les responsables de la FIFA ont bien fait puisqu'ils les suspendent de toute activité sportive, administrative et autres, mais attendons encore parce que d'autres sanctions peuvent tomber. Nicolas, il faut savoir que la sanction prise par la FIFA est un signal fort, hein, aussi en fort aux arbitres parce qu'on a l'habitude de voir des rencontres, des résultats des rencontres qui ont été inversés par des arbitres. Donc si la FIFA prend cette décision de sanctionner à vie un arbitre, cela va mettre la pression sur les arbitres qui vont officier normalement parce que ce n'est pas normal vu les enjeux sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan financier et sur beaucoup de plans. On a vu ce qui s'est passé aussi lors du match PSG-Barcelone. En tout cas, c'est un signal fort lancé par la FIFA aux arbitres Nicolas Pinot.
Merci à Medine. Allez, on revient au résultat. On va parler évidemment de la Ligue des Champions d'Afrique. Les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, tenant du titre, se sont qualifiés ce week-end après un match nul, un timide, un but partout contre les Ougandais de Kampala Capital City Authority en match retour des 16e de finale. Et puis, évidemment, le coup de tonnerre hein, en République démocratique du Congo, évidemment. Élisée Oumpatine, élimination du tout-puissant Mazembe, le club phare de la RDC. Après un match nul, hein, pas vraiment aguichant, 0-0 contre les Zimbabwéens de Caps United, les Corbeaux qui n'avaient pu faire que un partout au match aller. Hein.
Oui, c'est ce but encaissé à domicile, Nicolas, qui a fait que les Corbeaux louchois, comme on les appelle, ont quitté prématurément cette compétition. Il faut le dire, puisque ça montre combien de fois cette équipe a été diminuée. On le disait il y a quelques temps, le départ de quelques cadres, notamment Merveille Bopé au milieu du terrain, en défense, Christian Lindama, et surtout en attaque, Jonathan Bolenghi, qui n'est plus là et qui pourra permettre à l'équipe de marquer de but. Eh bien, ces trois jeunes pensionnaires de l'Académie Katumbi, qui ont été intégrés dans l'effectif, notamment en défense Mugano, sur le côté gauche Zola, au départ au profit de ces deux anciens qu'on connaît très bien, notamment Kassoussoula, le latéral gauche, et bien sûr le capitaine de cette équipe. Et bien voilà, en attaque, le jeune Malambo n'a pas pesé comme à l'aller, tout comme au retour. Eh bien, les Congolais devront jouer, bien sûr, un match de barrage hein, pour pouvoir intégrer de nouveau la phase de poule hein, de la Coupe de la Confédération, comme ce fut le cas la saison écoulée.
Et oui, on va parler à présent d'un autre résultat. L'Espérance de Tunis, double vainqueur de la compétition, hein, qui s'est débarrassé d'Oroya. Le club guinéen, on va prendre un premier appel depuis Conakry. Daouda Aissatadia qui nous appelle. Bonsoir.
Oui, alors bonsoir Nicolas.
Alors vous nous avez écrit sur Facebook, hein, vous êtes désolé de cette élimination. Un dommage pour le football guinéen.
Ah, Nicolas, vraiment, hier, moi j'étais au stade. Vraiment, nous pensons que l'Oroya pour faire le miracle ici, mais désolé, ils ont été inclinés 2-1 à l'aller. Ils nous ont battu à Tunis 3-1 au lieu de 2-0. Vraiment, hier, il n'a pas pu conduire, de venir à la maison. C'est mon ami qui a pris la moto et on est revenu à la maison. Vraiment, notre football, on doit faire une meilleure au niveau des horaires. J'essaie de supporter 100% des horaires qu'on a créé ici.
Eh oui, c'était difficile. En même temps, Jules Valentin Gouet, hein, on le rappelle, l'Espérance de Tunis a un grand, grand d'Afrique. Hein.
Oui, bien sûr, un grand d'Afrique qui marque son territoire et qui, ma foi, normalement était favori devant le club guinéen. Et le plus souvent, les équipes d'Afrique du Nord aussi ont l'avantage d'avoir des équipes prêtes au début de la compétition. Et donc, généralement, elles se retrouvent plus facilement dans la phase de poule.
Merci beaucoup, Jules Valentin Gouy. Allez, on continue évidemment sur Tour d'Horizon des résultats, évidemment, de ce week-end pour dire que Kadiogo n'a pas pu faire mieux, est éliminé. Le RC Kadiogo, hein, évidemment, le Rai Club de Kadiogo qui est éliminé par l'USM Alger hein, malgré la victoire 1-0. Al Merer, évidemment, qui se qualifie grâce à une lourde victoire, hein, 4-0 contre Rivers United après avoir perdu 3-0 à l'aller. Et puis également l'Étoile du Sahel qui se qualifie en battant le club ivoirien de Tanda. On va parler également du FUS de Rabat, le FUS de Rabat qui l'emporte 3-1 face à l'Ali Tripoli. Mais si je ne m'abuse, hein, Élisée Ongpatine, hein, c'est insuffisant puisque le Al Ahly de Tripoli l'avait emporté 2-0 hein, au match aller.
Oui, 2-0 surtout à Tunis, puisqu'il faut le dire compte tenu de la situation politique qui anime actuellement la Libye. Eh bien, les clubs libyens ne jouent pas à domicile et c'est la grande sensation puisque déjà à l'aller, ces Libyens l'ont emporté sur la marque 2-0 avec un très bon jeu. Mais ces Libyens ont courbé les Chines au retour 3-1 du côté du Maroc. Fils de Rabat ne participera pas à la Ligue des Champions. Ce club qui domine le football marocain depuis près de 3 ans, c'est vrai que le WAC a repris le contrôle de ce championnat et les Marocains devront disputer un match de barrage pour pouvoir disputer la Coupe de la Confédération.
Et puis Jules Valentin Gouy au Gabon, on a retenu son souffle hein, face à un autre club marocain, Mounana, hein, qui l'emporte 1-0, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller évidemment au tir au but vu la défaite à l'aller 1-0 à Casablanca. Et finalement, c'est le Wydad qui l'emporte 5-4, hein, Jules Valentin Gouy.
Oui, le Wydad qui l'emporte et toujours avec le même schéma parce que les équipes gabonaises et même l'équipe nationale gabonaise ont souvent un rendement très impressionnant quand elles rencontrent les équipes du Maghreb. Le plus souvent, et c'est pas les scores qu'on attend en fin de rencontre. Donc, et il était attendu qu'après le 1-0 du match aller où Mounana avait joué à 10 pendant une grande partie de la rencontre retour serait très serrée. Et ça a été le cas.
Allez, merci beaucoup Jules Valentin Gouy. On continue évidemment hein, pour parler du Young Africans, le club tanzanien qui élimine le Zanaco de Zambie après le match nul, un but partout à l'aller. Et puis le V-Club évidemment qui élimine le Ports Authority, un club gambien, un sourire hein, pour évidemment les Congolais qui sont entraînés par Florent Ibengué qu'on écoute.
Il ne fallait pas rester et attendre, il fallait qu'on aille chercher gagner ce match. Et on voulait gagner avec plus d'un but d'écart, parce que même à 1-0 à la mi-temps, on n'était pas à l'abri. 1-1, c'est parti, c'était les coups de pied arrêtés, il n'y avait pas de prolongation, c'était pénalty tout de suite. Donc on ne voulait pas de ça, il fallait absolument marquer un deuxième but. Et en arrivant en seconde mi-temps, on a été vraiment perturbés en changeant le système, comme vous l'avez si bien souligné. On a eu le bonheur de marquer ce second but, après c'était plus simple pour nous évidemment.
C'était Florent Ibengue, évidemment, qui s'exprimait après la qualification du V-Club. Il s'exprimait chez nos partenaires de Top Congo FM, notre station à Kinshasa. On va vous redonner quelques résultats également pour vous dire que Saint-Georges, le club éthiopien qui s'est imposé face au Léopard de Dolisi, 2-0. Et puis, évidemment, le club de l'île Maurice, Port-Louis, qui n'a pu faire que match nul, 2-0 face à Al Hilal du Soudan, les Soudanais qui l'avaient emporté, 3-0. Vous restez branchés sur VOA Afrique. Allez, on parle à présent des 16e de finale retour de la Confédération. Évidemment, les clubs algériens, tunisiens et sud-africains qui ont réussi un carton plein, tous joueront ce fameux tour de cadrage dont parlait Élisée Oung Patine. Évidemment, le club de Renaissance, le club congolais qui s'est qualifié, qui a été éliminé, puisqu'il y avait une défaite 2-0 à Alger lors du l'AJS Kabylie qui s'est imposé 1-0 face à l'Étoile du Congo, 1-0 de Boualadé. Et puis, on va donner également la défaite de l'AS Kaloum, le club guinéen qui a été battu par l'Ittihad de Tanger. On va revenir évidemment sur tous ces résultats avec vous pour parler peut-être à la fois de la défaite sévère du 11 créateur Élisée Oung Patine, sèchement battu par le Rayon Sport, le club rwandais.
Oui, Nicolas, il faut le dire, puisque ce match n'a pas eu lieu, il faut le souligner, le Mali étant suspendu par la Fédération internationale de football, donc c'est un match remporté suite à privé. Et c'est dommage, puisque le 11 créateur avait déjà fait le nécessaire au match aller à Bamako, mais voilà, c'était sans compter sur la situation qui prévaut actuellement le football malien, avec le ministre des Sports qui a suspendu le bureau exécutif, mettant en place un nouveau bureau pour pouvoir gérer cette crise qui secoue le football malien depuis des années. Thomas, sinon on aurait pu avoir des clubs maliens en Coupe de la CAF, puisque Djoliba aussi pouvait se qualifier pour le dernier tour pour pouvoir juste jouer bien sûr les phases de poule.
Oui, on repose la question, Jules Valentin Gouet, l'intervention évidemment du pouvoir politique dans celui des fédérations. On rappelle, le règlement est simple de la FIFA, pas d'ingérence, vraiment le monde politique totalement déconnecté du monde sportif. Dommage pour le football malien, on espère que ça va évidemment se résoudre rapidement.
Oui, ça va sûrement se résoudre comme dans les crises passées, mais ça pose toujours l'éternel problème de l'État qui a quand même qui mène une certaine politique sportive et qui, pour le coup, est le possesseur de l'équipe nationale et pratiquement des clubs du pays. Et de l'autre côté, la FIFA qui a son organisation et qui essaie de protéger les fédérations. Mais il faut dire que dans ce jeu-là, c'est le tort total n'appartient pas à un seul camp. Nous avons des fédérations qui jouent un jeu très négatif et qui se sentent impunies et le plus souvent. Et les pouvoirs publics sont désemparés face à cette situation. Je crois qu'il faut plus de collaboration entre les pouvoirs publics et la FIFA pour résoudre ce genre de malentendu.
Merci beaucoup, c'était Jules Valentin Gouet. Alors on va présent à parler du coup de massue, coup de tonnerre qui a eu lieu la semaine dernière à Addis Abeba. C'était jeudi. Issa Hayatou, qui n'est plus le président de la Confédération africaine de football, il était en piste pour un 8e mandat. Il dirigeait l'instance africaine depuis 1988. Tenez-vous bien, 29 ans. C'était évidemment la candidature de trop. Ahmad, le malgache, qui a réussi évidemment à prendre le pouvoir. Le vote 34 contre 20, évidemment. Amdinsi, Issa Hayatou, qui n'avait pas vu venir, évidemment, Ahmad, qui était un poids léger comparé à ce poids lourd d'Issa Hayatou sur le plan du football continental. Et finalement, il a renversé la vapeur. Est-ce que l'implication dans cette campagne du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait fait campagne et qui avait fait des déplacements, notamment dans l'Afrique australe, est-ce que ça a joué selon vous?
Gianni Infantino, on ne peut pas le nier, puisqu'il est allé quand même voir certains présidents de fédération. Il a même assisté à l'anniversaire quand même de la Fédération zimbabwéenne de football. Donc on sait ce que cela veut dire. Fatma Samoura aussi a effectué le déplacement au Sénégal. C'est vrai que elle était venue pour une visite de courtoisie, mais on sait ce que cela a donné, puisque au niveau quand même du Conseil des ministres au Sénégal, on avait donné des consignes de vote, mais c'était tenu secret quand même. Donc il faut le dire, mais il faut reconnaître aussi Nicolas Pinault que c'est un mandat de trop pour Issa Ayatou. C'est vrai que cela a surpris beaucoup de monde et moi j'étais le premier surpris parce que je ne pensais pas que Issa Ayatou n'allait pas passer, mais c'est comme ça. Ils ont cassé leurs yeux, les partenaires de Amat, et ils ont réussi un grand coup et je pense que c'est une bonne chose pour quand même le football africain, car la CAF était devenue ou presque une propriété privée. Ça et tout, le Camerounais en usé et en abusé avec des membres du comité exécutif qui étaient acquis à sa cause. Je pense que donc c'est vraiment une bonne chose. Le vent du changement a tourné également au niveau du football africain. Tant mieux.
Merci beaucoup. On va prendre un auditeur qui nous appelle du Niger. Amadou, bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Ben, ça va très très bien. Et comment allez-vous, Agnamé la coquette?
Ça va, Dieu merci.
Bon, très très bien. Dites-moi, vous vouliez revenir sur l'élimination du tout-puissant Mazembe, hein?
Oui, oui. Ah. Bon, selon pour moi, les supporters de tout-puissant Mazembe doivent supporter ce qui s'est passé, parce que chaque chose a son temps. Ce sont... Bon, autant pour moi, ce sont des... C'est une équipe très très puissante, donc c'est pas évident. Quand on les gagne, c'est pas évident. Il doit être... Ils doivent supporter leur ce qui s'est passé, quoi.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Amadou. On salue tous ceux qui nous écoutent dans la capitale nigérienne et tous ceux qui nous suivent sur la radio Enfani, notre station partenaire, évidemment, un peu partout au Niger. On va reprendre la conversation avec Jules Valentin Loué. Jules Valentin, on le disait, la chute d'Issa Ayatou, évidemment. C'était prévisible ou pas, selon vous? La semaine dernière, quand on en parlait, on laissait quand même entendre qu'il était le favori, hein.
Oui, bien sûr, il était le favori, mais il a commis l'erreur d'oublier que les élections importantes actuelles sont surtout une affaire de réseau et qu'à ce niveau-là, il ne s'était pas bien préparé. Et en plus, il ne bénéficiait pas manifestement de la sympathie du président de la FIFA et contre qui il avait appelé à voter au profit de son rival asiatique. Et donc, à ce moment-là, on se disait que Infantino, qui voulait avoir affaire à une nouvelle génération, pouvait trouver peut-être l'occasion de frapper aussi un coup. Bon, mais c'est surtout les raisons pour lesquelles Ayatou s'est présenté qui commencent à apparaître quelque peu. Je crois qu'il a pensé qu'il était utile et indispensable de par sa carrure pour être dans le jeu alors que deux questions importantes se jouaient, étaient sur la table. Le déplacement de la CAN pendant la fin de la saison européenne demandée par les clubs européens d'une part et de l'autre côté le nombre de places. Je pense que c'est ça qui a dû le motiver. Sinon, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas retiré, ne serait-ce que pour des questions de santé.
Oui, Lisez Oumpatine, avec vous, on revient sur cette influence réelle ou supposée de la FIFA.
Oui, il faut le dire, hein, même si Infantino ne veut pas le reconnaître, hein, il a joué un rôle fondamental, hein, et il faut l'expliquer maintenant. Ayatou ne s'est pas véritablement préparé, n'a pas battu campagne puisqu'il n'était pas tellement libre. Il y a la Coupe d'Afrique qui était là, il était obligé de se rendre du côté du Gabon, aussi la Coupe d'Afrique junior qui a eu lieu du côté de Lusaka et d'Ondola. Donc tout ça là, a fait qu'il n'a pas battu réellement campagne et surtout hein, ces hommes de main qui n'ont pas influencé véritablement ceux-là qui devraient voter. Et aussi, hein, je l'ai dit, le programme du nouveau président et surtout hein, qui s'est appréhendu sur 4 points. Il a dit porter ça touche au développement du football africain dans son programme de campagne. Et il faut dire que Ahmad a évoqué plus de place sur un président de fédération, la désignation des organisateurs hein, par le Congrès, une meilleure protection juridique pour les joueurs et clubs africains et surtout la réouverture du débat sur la périodicité de la CAN. Donc tout ça là, a fait qu'il y a des présidents hein, de fédération qui n'étaient pas vraiment chaud pour Issa Ayatou, eh bien, ils ont changé de veste et ont voulu supporter quand même le nouveau président de la Fédération africaine de football.
Merci beaucoup. Messieurs, on va évidemment faire un point reportage hein, dans cette émission. On va partir au Togo pour parler de football féminin. On n'en parle pas beaucoup dans cette émission. Pour la deuxième journée du championnat national de football féminin qui s'est joué ce week-end, 8 rencontres ont été disputées et notre correspondante Salomé Kailosson a suivi le match entre Atleta FC et le club des Amis du Monde.
Le derby de cette deuxième journée du championnat national de football féminin au Togo a opposé les deux meilleures équipes de la capitale Lomé. Atleta FC en maillot blanc et le club Les Amis du Monde en bleu ont livré un match digne d'une finale de compétition à la fois tactique et physique. Atleta Football Club a dominé la rencontre et l'a remportée sur un score de 3-1. Théophile Pakpokoumi est l'entraîneur d'Atleta FC.
Ah oui, je suis très content de mes filles. Elles ont bien mouillé le maillot et on a eu la victoire. Le championnat, c'est comme c'est une course de résistance. Nous allons essayer d'étudier les matchs un à un pour pouvoir arriver à être équipe championne du Togo. C'est ça notre objectif.
Le club Les Amis du Monde, première équipe féminine togolaise de football créée en 1992, est-elle rattrapée par l'âge? C'est pas le cas, rassure la coach Akouri Mausé Dekou, qui estime avoir joué avec une équipe B.
La défaut de Amis du Monde, c'est qu'on n'a pas d'effectif. On a trop de blessés, vous le savez. Et le match qu'on avait joué à Palibé, on a 4 au moins 6 blessés. Et je sais que dans l'avenir, on va chercher à travailler un peu de physique et tactique aussi. Et les joueurs sont déjà techniques, donc ça va aller.
Les amoureux du football féminin ont fait le déplacement du stade pour suivre ce match du premier championnat togolais de football féminin qui suscite de l'espoir. L'ami Tchédré, une ancienne joueuse.
C'est une très belle initiative du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Ça fait déjà plusieurs années que le football féminin se joue dans notre pays, mais jamais ce championnat national. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous recommençons tout à zéro. Quand vous voyez les matchs qui se jouent depuis le début de ce championnat, ce sont que de jeunes filles, très jeunes. Et dans l'avenir, je pense que c'est prometteur.
Débuté le 11 mars dernier, le premier championnat de football féminin au Togo se joue entre 16 équipes réparties sur tout le territoire national. Ce coup d'essai va permettre au Togo de détecter des talents afin de former une équipe féminine capable de s'engager dans des compétitions continentales. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, merci Kay pour ce reportage sur le foot féminin. On va parler évidemment de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, on va en Europe. Le tirage au sort des quarts de finale. Monaco qui va défier les Allemands du Borussia Dortmund. On a également un choc évidemment. Bayern Munich, Real Madrid, Juventus Turin contre Barcelone et l'Atlético Madrid contre Leicester. Très très rapidement, Abdinsi, qu'est-ce que ça vous inspire ces quarts de finale?
Ouais, je retiens le choc entre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Ce choc vraiment est un match vraiment qui s'annonce palpitant parce que c'est deux grosses cylindres. Le Real de Madrid tenant du titre qui joue contre quand même le Bayern, que je considère comme la meilleure équipe au monde hein, parce que non seulement le Bayern joue à la façon du FC Barcelone depuis le passage de Guardiola, mais également il y a la rigueur. Donc quand les Allemands jouent du tiki-taka avec la rigueur, ça devient autre chose. Mais le Real reste le Real. Il y a également Dortmund-Monaco, un match indécis, Nicolas Pino. Je ne veux pas parler aujourd'hui du Barcelone qui va jouer contre la Juventus.
C'est difficile pour un Sénégalais de faire court. On va poser la question à Jules Valentin Ngoué rapidement sur ces quatre oppositions en Ligue des Champions.
Oui, moi je retiens surtout le match Barcelone-Juventus justement qui est en quelque sorte, qui sera, ça se jouait à l'ombre de la finale de 2015 où on avait vu que la Juventus avait la tactique et les moyens de gêner considérablement Barcelone. Donc c'est un match qui sera très difficile pour les Catalans et pour moi c'est une finale avant la lettre et bien sûr sans négliger le match Real Bayern qui oppose les équipes peut-être les plus en forme.
Merci à tous. Vous l'entendez, la musique de la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier Élisée Oumpatine à Boïko, au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va remercier également Jules Valentin Ngoué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à lundi.
Un grand coucou également à Amdine Sy qui était avec nous depuis la France. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinot et à lundi prochain pour un autre numéro de Sportrama.
La mise en onde assurée par Michel Joseph et Fredner Kayemit. Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.